Alors, bienvenue à tous pour ce cycle donc de psychologie clinique sur le thème de la crise. Donc, comme ça a été dit à l'instant, on va avoir quatre conférences sur cette thématique. Quatre conférences qui sont différenciées les unes des autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans une continuité, etc. Mais elles vont nécessairement se rencontrer à certains endroits. Donc, voilà, elles sont complémentaires à certains endroits. Donc, la question qu'on a voulu se poser, c'est évidemment l'articulation de notre discipline avec la question de la crise, qui est la thématique générale de l'Université populaire cette année. Donc, on l'aura décliné de façon différente selon les interventions ce soir. Dans notre intervention commune, on va surtout parler de la question de la place du psy, de la psy aujourd'hui dans notre société contemporaine. C'est-à-dire, on a volontairement choisi un terme flou, un terme un petit peu fourre-tout, qui est le mot psy, qui est un préfixe, j'allais dire condensé autant que possible. Même le psyché a été encore coupé en deux, il reste plus que le psy. Et un terme finalement qui regroupe toutes sortes de théories et de pratiques, et qui dans notre société actuelle prend quand même une place assez importante. Il y a une place tout à fait importante, et une culture médiatique, une culture de masse qui a un petit peu imprégné toute la société avec ses relais, etc., etc. Donc on a voulu essayer de faire le point sur cette question-là, sur la question d'où ça vient, à quoi c'est ce besoin, cette demande finalement du public. À quoi elle est due, quel est le sens également pour les psychologues que nous sommes et que tant d'autres, ce que tant d'autres font aussi à leur niveau, à leur échelle, c'est-à-dire relayer cette pensée-là, la présenter. Quelle est la place de la psychologie sous ses différentes formes, même si nous, en tant que psychocliniciens, on va d'abord parler de psychologie clinique d'inspiration psychanalytique, parce que c'est la formation que l'on a chacun. Et donc, voilà, on va essayer de faire un petit peu un historique de la question, savoir un petit peu au niveau de la pratique, d'où ça vient, et puis ensuite, voilà, puis dans l'actualité, la façon dont ça se présente aujourd'hui, au niveau notamment de la culture médiatique, quelle place ça prend. Et puis, sur la fin, Jean-Baptiste nous parlera de la question de quelle influence cette culture psy un petit peu généralisée peut avoir au niveau de la pratique par les professionnels dans les lieux de soins, etc. Donc, Claire va commencer l'intervention, et puis je prendrai le relais. Voilà.
Ouais, je vais commencer à vous parler de cette question sous l'angle un petit peu, on va dire, historique, c'est-à-dire qu'on s'est interrogé quant à savoir comment ça avait pu commencer, comment ce phénomène avait pu débuter, et qui faisait qu'aujourd'hui on était envahi un peu par ces psys de toutes sortes, et comment comprendre voilà, le recours un peu systématique qu'on peut faire à tous ces spécialistes de la chose psy. Alors volontairement ce soir, on ne cherchera pas à différencier les différents psys, psychiatres, psychanalystes, psychologues, psychothérapeutes. On l'avait déjà fait, je crois, lors de notre première intervention à l'Université populaire. Voilà, donc je vous renvoie à cette intervention, si elle est encore en ligne, je ne sais pas, ou à ceux qui étaient là parmi nous, voilà, je vous renvoie à ce souvenir-là. Le but de ce soir, ce n'est pas de différencier tout ça, mais bien au contraire, d'essayer de comprendre justement comment ce qu'on a appelé un peu cette chose psy, cette culture psy, a pu envahir un peu la culture ambiante, et de quoi ce phénomène est-il le nom. Voilà, c'est un petit peu de ça dont on va parler ce soir. Alors, il n'aura échappé à personne, évidemment, que aujourd'hui, on n'a pas une émission de télévision, pas une émission de radio sans sa chronique psy. J'entendais le jour, c'est la matinale de France Inter, je crois, où Marcel Ruffo a une petite chronique. Bon, ça c'est pour l'aspect anecdotique. Enfin, hein, effectivement, je vous renvoie à votre expérience. On peut absolument pas faire sans cette référence au discours psy dans le monde actuel. Évidemment, dans les journaux, dans les magazines, on a des rubriques psy. Voilà, des émissions qui font appel à des spécialistes psy en tout genre. Voilà, donc c'est un phénomène qui a envahi de façon massive notre culture, jusqu'à, alors on se disait ça un petit peu en souriant, jusqu'à même être des adjectifs qui peuvent qualifier des noms de groupes de musique. On pensait à Psychiatre de la Rime, ou même au phénomène un peu plus actuel de la pop psy, le célèbre chanteur du Gunman Style, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'était, voilà, pour faire un petit clin d'œil un peu humoristique, on disait que finalement, ce vocable, il est utilisé un peu par tout le monde, par tous, et puis même jusque dans notre vocabulaire, hein, on voit que le vocabulaire de la psychologie a envahi notre langage courant, avec évidemment une référence très aisée au complexe d'Oedipe. Tout le monde s'en saisit et en parle avec une certaine facilité. On sait même finalement plus ce que ça veut dire. Alors faire son deuil dès qu'il y a un drame quelconque, aux journaux télévisés, on nous dit qu'il faudra prendre du, enfin ça prendra du temps pour que les gens fassent leur deuil. Quand il y a je ne sais quel phénomène un peu traumatique, on fait appel à des psys pour débriefer les situations traumatiques en question. Chez les adolescents, on entend très fréquemment les références à des termes comme mytho, parano, schizo. Enfin voilà, tous ces termes qui sont à la base, hein, des termes qui veulent dire des choses bien précises et qui renvoient à un vocabulaire scientifique, hein, qui décrivent des phénomènes psychiques assez précis. Finalement, on voit qu'ils sont complètement rentrés dans le langage courant et ils sont utilisés à la mode un peu de chacun. En tout cas, il y a une certaine distance entre la manière dont on les utilise dans le langage courant et ce qu'ils signifient dans le langage scientifique, évidemment. En tout cas, voilà, c'était pour souligner à quel point cette référence à la chose psy est fréquente dans notre culture actuelle et dans notre monde moderne, on va dire. Et voilà, la question, c'est de s'interroger sur qu'est-ce que ça signifie, d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène. Donc moi, je vais essayer de retracer un peu la compréhension de ce phénomène-là d'un point de vue historique, en m'intéressant particulièrement aux 50 dernières années, c'est déjà pas mal, vous me direz. C'est-à-dire les 50 dernières années qui commencent, on va dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quand même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'on découvre avec horreur, d'une part, la réalisation de la solution finale, c'est-à-dire la réalité des camps de concentration et l'extermination du peuple juif, et pas seulement, c'est-à-dire de tous les individus qui pouvaient être porteurs d'une différence, hein, donc que ce soit les handicapés mentaux, physiques, les tziganes et les opposants politiques. Donc on découvre cette chose bien réelle qu'est la solution finale qui était mise à exécution par l'idéologie et le régime nazi. Et un peu plus proche de nous, notamment en France, on découvre aussi un autre drame, un drame de la guerre, qui est celui de la mort d'un certain nombre de malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques. Donc au sortir de la guerre, on décompte près de 50 000 malades mentaux qui sont décédés, pas du tout de mort naturelle, mais décédés du fait d'un délaissement et d'un abandon, on va dire, des pouvoirs publics de ces malades au sein des hôpitaux psychiatriques, et donc des malades mentaux qui sont morts de faim du fait d'un rationnement plus strict à l'endroit des hôpitaux psychiatriques qu'à l'endroit de tous les autres hôpitaux. Donc on peut pas, même si à l'époque il y a eu des thèses qui ont été défendues d'un rapprochement entre la solution finale et une volonté eugéniste de la part du régime de Vichy à l'endroit des malades mentaux, on ne peut pas faire ce parallèle-là aujourd'hui. Hein. Il y a un livre de Max Lafon qui a été publié qui défend cette idée-là qui s'appelle l'extermination douce. Hein, voilà, donc juste pour vous dire que ça a fait débat cette question-là et que ça a beaucoup bouleversé le monde de la psychiatrie de l'époque. Bon, si on peut pas effectivement de fait faire ce lien aussi fort, on va dire, entre une volonté politique et un résultat du côté d'une maltraitance, d'un délaissement, même des malades mentaux au sein des hôpitaux psychiatriques. Pour autant, au sortir de la guerre, en parallèle aussi avec la découverte des camps d'extermination, le monde psychiatrique de l'époque, et puis même dans la société civile, on s'est interrogé et on a voulu réformer cette psychiatrie dite asilaire. Et on a commencé à penser une forme de refonte de la manière de soigner les malades mentaux et donc de l'hôpital psychiatrique. Donc c'est un mouvement qui a commencé dans les années 50, hein, donc au sortir de la guerre, et qui a trouvé son apogée dans les années 70 avec ce qu'on a appelé le mouvement de l'antipsychiatrie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là ? Donc c'est, vous l'aurez compris, à la fois un mouvement presque, j'allais dire, d'indignation, pour reprendre des termes un peu modernes, un mouvement d'indignation quant au sort qui avait été fait aux malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques, et puis un mouvement de réinterrogation assez fondamental de ce qu'il pouvait faire l'humanité des êtres humains et aussi du coup des malades mentaux. Alors pour en donner les grandes lignes de ce mouvement-là, donc il y a plusieurs points forts à retenir dans cette pensée-là. C'est d'abord l'idée que une personne qui souffre d'une pathologie mentale, elle a des droits et il y avait l'idée qu'elle devait être considérée comme un citoyen à part entière. Par ailleurs, il y avait aussi la critique de l'asile comme étant un lieu de coercition et d'exercice d'un pouvoir étatique qui visait à tenir à l'écart les individus considérés comme dangereux pour la société, plutôt que de considérer qu'ils avaient besoin de soins et qu'ils devaient être protégés du monde dans lequel ils vivaient. Donc c'était l'idée que l'asile, il protégeait pas l'individu de sa pathologie mentale et des effets que ça pouvait avoir sur lui, éventuellement sur les autres, mais que l'asile servait à l'inverse, à défendre l'État, à protéger l'État de l'agressivité, voire de la violence que pouvaient avoir les malades mentaux à l'égard de ce même État. Donc ça, c'est la deuxième chose. Alors, par exemple, ça, c'est une thèse que vous allez retrouver dans le film de Milos Forman, qui a été réalisé en 1975, Vol au-dessus d'un nid de coucou, hein, et qui a été très prisé par le grand public et qui témoigne, enfin, ce succès populaire témoigne aussi de l'intérêt du grand public pour ces questions-là à l'époque. Hein. C'est pas qu'une question qui intéresse juste les psychiatres dans leur coin, mais c'est bien une question de fond et une question sociétale qui se pose alors à l'ensemble de la société. Voilà. Donc il y avait donc l'idée que effectivement ces personnes qui souffraient de troubles psychiques pouvaient aussi avoir des droits, devaient être considérées comme des citoyens à part entière et pas des citoyens comme on dirait aujourd'hui pour parler d'autres publics, des citoyens de seconde zone par exemple. Alors du coup à ce mouvement un peu de contestation hein, qui visait à une refonte de l'hôpital psychiatrique et donc à un mouvement un peu de contestation de ce qu'on a donc appelé l'asile, il y a deux propositions, là je parle pour la France, hein, deux propositions qui ont été faites hein, et deux directions que le soin psychiatrique a pris et qui sont encore aujourd'hui des directions qui sont toujours d'actualité dans la manière qu'on a de soigner les patients. Hein. Donc c'est à la fois c'est ancien, mais en même temps c'est toujours d'actualité aujourd'hui dans la manière dont on soigne les gens. Alors deux propositions qui sont complémentaires hein, ou qui parfois ont pu s'opposer, mais qui restent quand même dans la même lignée, c'était celle de faire sortir les malades mentaux de l'hôpital psychiatrique et sortir de l'enclave dans laquelle ils étaient pris au sein de cet asile. Alors la première proposition, c'est la proposition qu'on appelle de psychiatrie de secteur, donc avec l'idée de développer en amont de l'hôpital psychiatrique une proposition de soins qui permettent aux personnes qui souffrent de pathologies mentales d'avoir un autre lieu de soins que simplement l'hôpital psychiatrique. Et au sein de ce de cette organisation, l'hôpital, ça devient un peu le dernier recours, mais c'est plus le seul recours. Donc la psychiatrie de secteur, elle vise à ouvrir au sein des villes et des arrondissements, pour les grandes villes, des structures de proximité qu'on appelle les centres médico-psychologiques, hein, qui sont des lieux de consultation où on peut aller, ils peuvent aller consulter toute personne gratuitement et sans forcément qu'elle souffre d'ailleurs de troubles mentaux graves. Alors, donc ça vise effectivement à réintégrer les personnes atteintes de pathologie mentale au sein de la cité, hein, puisque du coup, ils sont plus obligés d'être au sein de l'hôpital psychiatrique pour recevoir des soins, et ils peuvent donc, quand c'est possible, c'est-à-dire leur état n'est pas trop un état de crise, ils peuvent du coup aller consulter, enfin vivre au milieu des autres, et puis aller consulter au CNP de leur quartier, plutôt que d'habiter l'hôpital psychiatrique parfois à vie. Alors on observe en parallèle de ce mouvement donc, qu'on appelait la psychiatrie de secteur, un autre mouvement qui s'est appelé celui de la psychothérapie institutionnelle, qui pareil a trouvé naissance dans les années 50. Hein. On a l'exemple, peut-être que pour certains vous le connaissez, de la clinique de la Borde, qui a été fondée par Jean Houry. Alors la psychothérapie institutionnelle, c'est l'idée que ce qui peut soigner les gens, c'est finalement de trouver au sein d'une équipe de soignants des pairs, des semblables, des gens avec qui partager une expérience de vie en commun. Donc pour développer un peu l'exemple de Jean Houry, c'est quand même quelqu'un, c'est en 1953 hein, qui fonde cette clinique, donc c'est vieux, c'est quelqu'un qui part avec une trentaine de ses patients pour fonder la clinique de la Borde, alors qu'ils vont d'abord ils vont errer pendant à peu près 2 semaines pour trouver un château en ruine et puis essayer de le rendre accueillant et puis conforme à un lieu de soins. Mais voilà, ça débute comme ça, la psychothérapie institutionnelle avec Jean Houry. C'est on quitte l'hôpital parce que l'administration, à ce moment-là, il y a un désaccord sur des travaux à faire, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et on estime que c'est pas digne pour les patients. Et voilà, donc après va se développer donc tout un courant de pensée autour de l'idée que c'est la vie en communauté qui va permettre aux patients d'aller mieux parce que l'hôpital psychiatrique dit l'asile à l'époque encourageait la chronicité de la maladie et plutôt que de stimuler la créativité des patients et de travailler, on va dire, avec leur partie saine. Donc, c'est proposer aux patients de prendre soin d'eux à travers des responsabilités dans l'institution et la participation à la vie de l'institution au même titre que les soignants. Voilà, donc on voit quand même l'influence aussi d'une idéologie aussi qui était assez en vogue à l'époque, hein, du côté de la pensée communiste, hein, l'idée que c'est la communauté, le groupe qui soigne, l'idée qu'on se retrouve ensemble comme des semblables, que la hiérarchie entre celui qui est sain et celui qui ne serait pas est non pas annulée, mais elle est estompée, et que ce qui soigne, c'est d'être avec des pairs et avec des semblables. Alors, ça, c'est, on va dire, c'est les deux grands mouvements qui sont à l'origine de la refonte de la psychiatrie et qui sont encore aujourd'hui, comme je vous le disais, d'actualité dans les services de soins. À cette époque-là aussi, ce qui, j'ai oublié de le dire, mais ce qui fonde un petit peu ce mouvement de contestation de l'asile, c'est aussi l'idée, enfin, on remet en question, et ça, c'est quasiment idéologique, hein. On remet en question la distinction, voire l'opposition qui pouvait être faite et qui a été faite pendant longtemps entre ce qu'on va appeler le normal et le pathologique. Et là, on voit qu'on fait voler en éclats ces catégories-là pour soutenir plutôt l'idée d'une continuité, hein, que ce serait pas d'un côté il y aurait le fou et de l'autre côté les gens normaux, le fou dont on devrait protéger la société de ses agissements ou dont on devrait protéger les gens normaux de sa violence. Voilà, il y a l'idée d'une continuité et que finalement le fou ou le normal sont que des états différents de l'appareil psychique, enfin ou de la psyché humaine, et que ce n'est pas deux types d'individus différents. Voilà, donc à cette époque-là aussi, on vise à réhabiliter cette vision de la personne qui présente des troubles mentaux avec l'idée que il n'est pas si différent de nous et qu'il peut être insemblable. D'où aussi l'idée de le réintégrer au sein de la cité, parce que finalement, pour qu'il puisse vivre avec ses pairs. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt de dire tout ça, quel est le lien avec notre thème, dont je rappelle que notre intervention de ce soir concerne le malaise dans le monde moderne et la question du psy dans tout ça, le psy dans la crise. Voilà, on peut peut-être se dire que c'était mieux avant, je sais pas. Mais en tout cas, simplement pour vous dire que ça, c'est sans doute ce qui a été un terreau très fertile pour favoriser, alors du côté du soin psychiatrique et de la manière dont on pouvait penser le soin aux personnes souffrant de troubles psychiques, ça a été un grand mouvement d'ouverture, mais que en parallèle de ça, on peut penser que ça a eu le même effet sur la société. C'est-à-dire que si les murs des asiles sont tombés et que les personnes malades mentales ont réintégré la cité, on peut penser que par la même occasion, les psys sont sortis des hospices, sont sortis de l'asile aussi, parce qu'ils étaient derrière les murs jusque-là. Et on n'avait pas affaire à eux dans la société civile.
Je disais, ils se portent mieux maintenant, les psys.
Mais voilà, c'est que peut-être on les a autorisés à sortir. Donc, en même temps que les malades mentaux, les psys sont sortis aussi de derrière les murs. Et donc, ils ont eu affaire, ou en tout cas, la société civile a eu affaire à eux. Sans doute qu'on n'avait pas affaire à eux de la même manière avant. Et dans cette logique d'une continuité entre le normal et le pathologique qui a été fortement revendiquée et qui a été le moteur aussi de cette sortie de l'hôpital psychiatrique et de cette réintégration dans la cité, il y avait aussi l'idée que les psys, c'était pas que des spécialistes de la maladie mentale, mais c'était plus largement aussi des spécialistes de la chose psychique, de la vie psychique, du psychisme. Et ça, le psychisme, c'est une chose qu'on a tous en commun, qu'on soit sain d'esprit ou pas. On a tous un psychisme, on en est tous dotés. Et du coup, tout d'un coup, les psys, ils n'étaient plus que les spécialistes des grands schizophrènes internés, mais aussi parce qu'ils réintégraient sans doute la société civile. Ils devenaient aussi des personnages à qui on pouvait avoir affaire sans être forcément stigmatisé comme un malade mental. Alors, quand même, il faut rappeler que ça, c'est pas nouveau, parce que avec Freud, quand même, on a cette idée d'une continuité entre, la pathologie mentale et la normalité, ou l'expression de la normalité, puisque Freud, il a à la fois, deux approches dans la manière d'écrire, voire trois. À la fois, il écrit vraiment sur l'expression pathologique de certaines maladies mentales, mais il écrit, c'est pour ça que je disais trois, il a aussi des écrits qui portent plus sur le socius, mais il écrit aussi, et ça c'est important, sur des choses qui concernent ce qu'il appelle la psychopathologie de la vie quotidienne. Donc parmi ses premiers écrits, notamment, il y a ce qui concerne le mot d'esprit, il travaille évidemment sur le rêve, il travaille sur les lapsus, les actes manqués, qui sont quand même des expressions de notre vie psychique qu'on expérimente au quotidien et qui ne sont pas nécessairement le signe d'une maladie mentale, même plutôt au contraire, en tout cas qui témoignent de l'existence d'une activité psychique et à laquelle Freud s'intéresse. Et d'ailleurs, Freud démontre, et ça c'est intéressant, dans cette idée d'une continuité entre le normal et le pathologique, il s'intéresse à démontrer que c'est le fonctionnement pathologique qui nous permet de comprendre la normalité. Donc on est bien dans cette idée qu'il y a une continuité et que c'est pas une rupture entre deux états. Effectivement, à cette époque aussi, dans les années 70, on connaît aussi, la psychiatrie française connaît l'essor de la psychanalyse qui est diffusée largement dans le milieu psychiatrique, jusque-là qui était quand même d'une approche très très médicale, on va dire. Donc la pensée psychanalytique, elle diffuse très largement au sein des formations des psychiatres, et ça contribue sans doute aussi à ce que on puisse s'approprier la chose psychique comme étant une chose qui appartient à tout le monde, et pas seulement la chose psychique et le psy comme étant quelque chose qui appartient à tout le monde et pas seulement réservé aux malades mentaux. Merci. Alors, à cette époque aussi, donc effectivement, sans doute en parallèle de ce mouvement d'ouverture des asiles et tout ce que je viens de vous décrire, du coup, on observe un phénomène qui est sans doute un phénomène un peu précurseur de ce qu'on observe aujourd'hui, c'est des psychanalystes qui prennent la parole sur les ondes. Alors en France on a Françoise Dolto, en Angleterre on a Winnicott, qui s'adresse au grand public, hein, dans une visée de un peu pédagogique, hein, de diffuser le plus largement possible la pensée psy. Donc Françoise Dolto, on s'en souvient, est intervenue sur France Inter. Elle avait une émission. C'est aussi des auteurs, Winnicott ou Françoise Dolto, qui publient des livres à destination de, entre guillemets, de non-spécialistes, hein, et qui visent à diffuser largement la pensée psychanalytique à l'endroit des non-spécialistes, mais comme un outil pour l'éducation des enfants ou pour leur éducation. Alors, on retient de Françoise Dolto, évidemment, cette parole célèbre selon laquelle il faut parler aux enfants. Hein. Alors, on verra qu'aujourd'hui, sans doute qu'on a trouvé les limites de cette question-là, hein, parce qu'on rencontre beaucoup de parents qui parlent trop à leurs enfants, ou en tout cas, quand on parle de quoi parle-t-on, comment faut-il parler, peut-être qu'on n'a pas tout à fait affiné la question quand on a dit seulement qu'il fallait parler aux enfants. Forcément, chaque chose a aussi ses limites. Hein. Bon, voilà, en tout cas, la pensée de Françoise Dolto a eu le mérite de diffuser largement cette parole et a surtout attiré le regard sur l'enfant, sur la manière dont on pouvait l'éduquer, dont il fallait l'éduquer aussi, et sur les choses qu'il fallait prendre en compte pour son bien-être et pour son développement. Alors, du coup, on observe quoi ? Très simplement, ces questions-là, elles se traduisent dans les écrits de tous ces spécialistes. Ils commencent à s'intéresser à des choses, dans la suite de Freud, hein, mais à des choses très banales, aussi banales que l'existence du doudou. Alors ça, c'est Winnicott, quand même, qui fait ça. La crise d'adolescence. De quoi parle-t-on encore ? On nous invite à réfléchir sur le développement de l'enfant, du bébé, que des choses banales de la vie quotidienne. Et tout ça va, évidemment, dans le sens d'une diffusion de la pensée psy, et surtout d'un intérêt accru aussi dans le public et d'une recherche et d'une quête de réponse du côté de ces spécialistes qui se sont mis à disposition du grand public pour répondre et pour les aider à penser les phénomènes les plus ordinaires de leur vie. Alors, voilà comment on peut comprendre globalement ce phénomène-là au regard du mouvement de l'antipsychiatrie et de l'ouverture des asiles. Alors, simplement, dans notre question, il y avait, dans notre titre, dans notre présentation ce soir, il y avait la question de la culture psy, de la parole psy et de son essor actuel. Donc on voit que, on va dire que c'est depuis une cinquantaine d'années que c'est... On voit comment ça a pu se mettre en place. Il y a aussi la question du malaise, hein, dans notre titre. Alors le malaise, pourquoi ? On a voulu faire un clin d'œil, évidemment, à un ouvrage publié par Freud en 1929 que peut-être vous connaissez, qui s'intitule « Malaise dans la civilisation ». Alors c'est pas qu'un clin d'œil. Enfin, c'est pas juste pour faire une jolie référence. C'est pas juste pour dire qu'on a lu Freud et qu'on le cite. C'est aussi pour ouvrir la réflexion sur les parallèles éventuels qu'on pourrait faire entre ce qui a fait écrire à Freud le malaise dans la civilisation et ce qui fait qu'aujourd'hui on pourrait parler d'un malaise dans le monde moderne. Bien que les sociétés des années 30 et nos sociétés d'aujourd'hui, dans les années 2000, à la fois ne soient pas comparables, on va voir en quoi peut-être il pourrait y avoir des parallèles à faire entre ces deux époques qui nous font dire, en tout cas qui nous ont fait reprendre ce terme de malaise, parce que si on reprend ce terme-là, c'est aussi pour faire explicitement référence à ce qui fait parler à Freud lui-même de malaise dans les années 30. Alors Freud, il faut savoir, pour le faire rapidement, a fait connaître à sa théorie et à sa pensée un tournant important dans les années 20, ce qu'on appelle le tournant de 1920, avec la découverte de la pulsion de mort et l'introduction donc dans sa pensée de ce qu'on a appelé le dualisme pulsionnel, c'est-à-dire le dualisme entre pulsion de vie et pulsion de mort. Alors ça, c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale qui fait cette découverte, on va dire. Voilà. Alors, avec notamment un ouvrage important qui s'intitule « Au-delà du principe de plaisir », donc où il introduit sur cette question de la pulsion de mort. C'est pas rien. C'est un véritable tournant. C'est-à-dire que Freud, tout d'un coup, il découvre que peut-être que l'être humain, il fait pas les choses que par plaisir ou pour retrouver le plaisir ou répéter le plaisir, mais qu'il y a des expériences qui témoignent de l'existence d'une pulsion de mort, d'une force de déliaison à l'intérieur de l'être humain, donc d'une pulsion d'agression, de destruction. Et évidemment, c'est pas pour rien qu'il fait cette découverte-là au lendemain de la Première Guerre mondiale, dont vous savez quand même qu'elle a été extrêmement meurtrière. Alors, du coup, c'est à la veille d'une autre guerre, hein, de la Seconde Guerre mondiale, que Freud fait ses développements sur le malaise dans la civilisation. C'est pas pour rien non plus, parce qu'il connaît, pour être un des acteurs de cette époque-là, et puis de surcroît, j'allais dire, juif, il connaît, il sait ce qui se passe, il est témoin de ce qui se passe, et notamment de la montée du nazisme, et ce qui lui fait écrire le malaise dans la civilisation, où finalement sa thèse est assez pessimiste, hein. Ce qu'il nous dit, c'est que finalement toute civilisation, aussi élaborée soit-elle, et bien qu'elle tende vers le progrès, contient en elle-même une puissance de destruction assez importante, et il conclut quand même en ces termes son livre, son malaise dans la civilisation, il le conclut en posant la question de savoir si, alors ce qu'il appelle pulsion de vie et pulsion de mort, le dualisme pulsionnel, est autrement appelé Eros et Thanatos, en référence à la mythologie grecque. Et donc il se pose la question de savoir si le pouvoir de l'Eros, dont il dit que c'est un grand rassembleur, hein, qu'il a des grandes potentialités de liaison pulsionnelle, est-ce que ça sera malgré tout suffisant face à la force des puissances destructrices mobilisées par Thanatos et présentes à l'intérieur de l'être humain et au sein des civilisations humaines, bien qu'elles soient extrêmement élaborées. Alors, dans l'édition, alors ça c'est en 1929, hein, il faut quand même savoir que Freud, il va déposer son manuscrit chez l'imprimeur une semaine après le krach boursier de 1929. Donc, c'est bien qu'il y ait un certain nombre d'années qui nous séparent de cet ouvrage, hein, aujourd'hui, on peut néanmoins quand même penser une filiation entre les propos de Freud sur la société de l'époque et la nôtre aujourd'hui, parce que quand même, 1929, c'est le premier krach boursier, et aujourd'hui, on connaît de façon successive les crises et la violence que nous fait subir la société capitaliste, justement, avec ces crises à répétition. Ces crises boursières et financières. Alors, la deuxième version, la réédition de l'ouvrage en 1930, connaîtra entre autres modifications, une modification sur la fin qui accentue le pessimisme freudien, où voilà, il terminait en se demandant avec un certain optimisme, en pensant que Eros avait suffisamment de force et de pouvoir de rassemblement pour vaincre les puissances de destruction. Freud termine en 1930, hein, faut dire qu'il a vu à cette époque-là les nazis entrer au Reichstag, hein, donc sans doute que son pessimisme s'est accru à ce moment-là. Il termine en se demandant et en disant qu'on ne peut pas préjuger de l'issue de ce combat entre Eros et Thanatos. Donc il est beaucoup plus pessimiste et il termine comme ça. Alors, évidemment, on ne peut que le comprendre quand on voit comment l'histoire a évolué ensuite. J'allais dire heureusement ou malheureusement pour lui, je ne sais pas, il est mort avant. Donc. Mais voilà, alors est-ce que, comme je vous posais la question tout à l'heure, le malaise d'aujourd'hui est comparable à celui que Freud décrit dans son malaise dans la civilisation ? Alors, est-ce que c'est comparable ? Je dis juste pour les gens qui écouteront sur Internet qu'on est en train de me dire de m'arrêter. Je suis en train de terminer. Oui, la comparaison peut se faire. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même des parallèles importants sur le contexte de crise, même si aujourd'hui on n'est pas à l'aube d'une guerre mondiale, hein, évidemment. Néanmoins, sur le contexte socio-économique, on peut penser qu'il y a des parallèles à faire, hein, sur l'insécurité qui règne, l'insécurité psychique, hein, qui règne pour les individus qui se sentent menacés par une société qui ne les protège plus ou qui ne contient plus et qui ne les sécurise plus. Alors, il y a un parallèle qui a été proposé par l'école de Francfort et notamment un des sociologues de cette école, qui est Georges Lucas. Enfin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais je trouvais ça drôle de faire le parallèle avec un autre, Georges Lucas, qui, lui, donc réalisateur américain, pour ceux qui ne connaissent pas, de La Guerre des Étoiles, qui, lui, met en scène le dualisme pulsionnel et le côté obscur de la force, n'est-ce pas ? Bon, Georges Lucas, l'autre, le sociologue hongrois, lui, il propose un parallèle fort intéressant pour penser la société capitaliste et les effets du libéralisme sur les groupes humains. Et ce qu'il nous propose de penser, c'est que en proposant comme ça la division du travail, la répartition des tâches, et donc ça c'est l'effet de l'industrialisation, à travers l'exemple du fordisme et du taylorisme, qui vise donc à diviser les tâches entre les individus, à séparer, à partitionner chaque tâche. Du coup, il montre comment ça produit un effet de déliaison, un effet que du coup l'individu, il ne participe plus, il n'a plus le sentiment de participer à la réalisation d'une tâche, mais il réalise sa propre tâche qui est complètement coupée du reste de la réalisation d'ensemble, et ça produit sur l'individu une annihilation de sa conscience et de la conscience de ce qu'il est en train de faire. Et il fait le rapprochement entre cet effet-là du libéralisme, du fonctionnement libéral, avec ce qui s'est passé sous le régime d'Hitler, avec la solution finale. Donc ce qu'il nous propose de penser, et ça c'est intéressant, c'est comment, il y a l'exemple évidemment du nazisme, mais pas seulement, parce que finalement tous les régimes totalitaires du XXe siècle ont procédé de la même sorte, c'est que finalement on fait participer l'ensemble des individus à une solution, alors la solution finale, sans qu'ils aient le sentiment d'y participer, et en les coupant de la conscience même du fait qu'ils participent à ça. Et ça, nous dit-il, ce Georges Lucas, c'est l'effet même du libéralisme, du fait de la division du travail, la répartition des tâches entre les individus qui annihile leur conscience. C'est aussi des thèses qui sont développées par Hannah Arendt. Alors, si ça vous intéresse, puisque je n'aurai pas le temps de développer, donc vous voyez en quoi on peut faire le parallèle avec le malaise dans la civilisation tel que Freud le dit, justement sur le fait qu'aujourd'hui, nous subissons de plein fouet les effets d'un libéralisme forcené, qui effectivement, au final, on ne sait même plus à quoi on a affaire, puisqu'on nous parle de marché. Le marché, c'est même plus une personne, c'est une chose abstraite. Donc, ça prouve bien comment finalement toute notre conscience des choses et des phénomènes est complètement annulée face à ce phénomène qui nous dépasse et qui est de l'ordre d'une mondialisation. En tout cas, si ça vous intéresse d'aller voir un peu plus sur ces questions-là, je vous invite à regarder ou à lire, puisque c'est d'abord un livre de François Emmanuel qui s'intitule La question humaine et qui a été porté à l'écran par, j'ai oublié son prénom, Nicolas Klotz en 2007 et qui s'intitule pareil La question humaine. Bon, c'est un peu rébarbatif, c'est un film d'auteur qui prend des positions sur ce plan esthétique qui peuvent être un peu laborieuses pour le spectateur, mais le propos est très intéressant. Sachez que le personnage principal qui est incarné, j'ai oublié son nom, par un acteur très connu, reprend en voix off l'essentiel des propos du livre. C'est dommage, j'ai oublié son nom. Bref, ça me reviendra. Voilà, donc on peut juste pour terminer, je poserai la question suivante qui introduira le propos de mes collègues. Voilà, que dans un monde où, parce que vous constaterez que j'ai très peu parlé des psys dans tout ça, donc, et les psys dans tout ça, en quoi participent-ils ? Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la question humaine, figurez-vous qu'il s'agit quand même d'un psy, un psy du travail qui est chargé par... Ils discutent à côté, je préfère pas regarder ces... sinon je ne vais plus pouvoir parler. Il s'agit d'un psy qui est chargé de sélectionner des personnes dans le cadre d'un plan social, hein, des gens à éliminer. Et il y a tout un parallèle qui est fait entre ce travail-là du psy, du coup, dans l'entreprise et la solution finale. Enfin voilà, tout un argumentaire. Enfin, on reprend l'argumentaire que je vous ai développé tout à l'heure, qui est celui d'Anna Arendt et de l'école de Francfort avec Georges Lucas. Simplement pour se demander si dans ce contexte-là, hein, qui est un contexte de crise, la figure du psy, elle peut à la fois être présentée comme le recours ultime à un vivre ensemble qui serait à la dérive, hein, et en même temps, ça serait paradoxalement le symptôme d'une société dans laquelle le lien social se désagrège et où l'individualisme est porté à son comble. Mais ça pourrait être aussi, alors c'est à la fois un symptôme, hein, le recours au psy de toute force et absolument, mais ça pourrait être aussi présenté comme un recours salvateur à un mal, comme un nouveau prédicateur pour des êtres humains qui seraient en mal d'idéologie. Donc c'est la question que je pose et qu'on va se poser ensemble ce soir.
Alors, pour garder un peu de temps pour le débat, on va essayer de faire plus concis. Adrien des sources finies, commencer le débat dans 5 minutes, hein, quand même. Hein, donc, je vais revenir sur la question de la culture psy. Donc, Claire, on a dit un certain nombre de choses, donc je vais essayer de pas rentrer dans les détails, surtout qu'il y a un certain nombre de choses qui seront reprises lors de mon intervention de la semaine prochaine. Donc, comme je disais en introduction, la pensée psy est un ensemble un peu désordonné de concepts de provenance théorique diverse. Donc, il y en a qui viennent de la psychanalyse, il y en a beaucoup qui viennent de la psychanalyse, le refoulement, la pulsion, le transfert, les complexes d'Oedipe, etc. Il y en a qui viennent plutôt une origine psychiatrique, parfois plus récente, c'est là qu'on va parler de TOC, hein, le fameux trouble obsessionnel du comportement, etc. Et puis il y a d'autres éléments, mais tout ça pour dire finalement que toutes ces composantes a quand même créé une espèce de pensée globale qui recompose finalement une pensée psy un petit peu allégée, un petit peu vulgarisée à la portée de tous, parce que globalement ça parle un langage relativement simple et accessible. La plupart des concepts ont été quand même assez explicités. Donc il y a quelque chose d'une volonté de vulgariser. Alors Claire faisait la référence à Freud, on pourrait même remonter avant à Charcot qui se donnait un petit peu en spectacle entre guillemets, hein, à faire des représentations publiques. Alors avec le temps et les années, la forme a changé. Des présentations de malades, c'est quelque chose qui est devenu un petit peu rare et qui a plus forcément très bonne presse, mais n'empêche qu'on peut pas regarder la télévision une semaine sans voir un certain nombre de situations qui sont exposées. Alors ça se fait par un écran interposé. Les professionnels donnent un éclairage dans des contextes d'interview, etc. On n'est pas dans une représentation live finalement. C'est un peu la différence qui existe entre un concert en live et puis un enregistrement. Enfin, c'est également tout un contexte d'amélioration des techniques qui a amené cet élément-là. Mais quoi qu'il en soit, on se rend compte que cette psy qui a un petit peu pris différentes formes. Alors, il y a des formes parfois assez intéressantes, hein, qu'on trouve. Il ne s'agit pas de tout dénigrer. Et puis on peut aussi penser que cette diffusion au plus grand nombre a aussi des vertus, parce que ça permet d'apporter quand même des éléments, des outils de réflexion pour essayer de comprendre, pour attirer une certaine curiosité, et puis pour éventuellement séduire un public qui n'aurait jamais pensé faire la démarche et qui du coup va faire cette démarche auprès de quelqu'un, parce qu'il se rend compte en écoutant des choses ici et là qu'il a peut-être aussi des petites questions à régler et qu'il y a un certain nombre de choses qui, qui lui appartiennent à travers des éléments perçus dans les médias. Ça fait écho et du coup ça pousse les gens à s'intéresser à leur vie psychique. C'est vrai que nous, en tant que psychologues, c'est pas quelque chose dont on va se plaindre. Néanmoins, il y a quand même une dimension, qui est aussi perverse à tout ça, c'est que ça s'appelle quand même à un certain nombre de choses qui sont quand même à vif dans notre société actuelle, qui sont la question du dévoilement de l'intime, la question de l'exhibition, du voyeurisme, etc., de l'angoisse de la norme qui est due quand même à la montée de l'individualisme et donc du fait que les individus sont quand même globalement assez isolés, les systèmes familiaux sont quand même plus fragiles, il y a moins de garde-fous. C'est vrai que en France, en tout cas, la référence du religieux a quand même largement reculé. Du coup, c'est vrai que les gens sont quand même un peu en quête de valeur, en quête de sens, et cette pensée psy est une espèce de pensée refuge, un endroit où les gens vont chercher du sens dans leur vie. Alors, pas plus tard qu'hier, je regardais une émission pour essayer de me mettre dans le bain de cette culture psy, où on voyait typiquement des gens qui étaient en quête de personnages de leur filiation qui avait disparu. Alors il y avait la dame née sous X qui, malgré ses 75 ans, cherchait encore désespérément sa mère biologique, d'autres qui cherchent une sœur, une demi-sœur, etc., etc. On se rend compte, et puis ce qui était aussi intéressant dans cette émission, c'est quand même qu'on voyait quelqu'un qui avait fait le même genre d'émission quelques années avant, qui revenait, qui se rendait compte que malgré qu'elle ait trouvé des réponses, qu'elle a rencontré des gens qui lui étaient au niveau de l'ADN des gens de sa famille, biologiquement parlant, même si finalement c'était des inconnus affectivement les uns pour les autres, cette personne-là faisait quand même la constatation que c'était quand même un peu un patch sur une jambe de bois et que toute cette quête avait eu un côté vain aussi, si ce n'est de se rendre compte que elle n'avait pas trouvé de réponse là-dedans, mais ça l'avait peut-être il n'y a pas le lien était perdu, mais ça avait peut-être empêché quand même de se libérer de ce poids-là, en tout cas, de se dire, quelque chose a été dépassé. Alors c'est vrai que la question des psys dans ces émissions se pose, parce que selon il y a différents types d'émissions, je pense qu'il ne faut pas non plus tout mettre dans le même paquet, il y a des choses assez intéressantes qui amènent des éléments tout à fait pertinent, puis il y a parfois des psys un peu qui sont là, ce qu'on appelle le psy de service, le psy caution, qui est là pour donner une espèce de crédibilité à l'émission, pour essayer de faire plus ou moins briller l'animateur. On a souvent vu ça, que c'est quasiment l'animateur qui fait les interprétations et le psychologue qui rajoute derrière, qui confirme que l'autre a bien appris sa leçon, d'une certaine manière, quelque chose de cet ordre-là. Mais ce qui est quand même assez frappant, c'est que le psychologue, dans ces émissions-là, a quand même une parole qui se veut assez normative. On est plus souvent dans l'ordre du coaching, de l'ordre du conseil. Il faut faire ci, il faut faire ça. On va vous donner des espèces de réponses un peu clés en main d'un certain nombre d'éléments. Comment comprendre ce qui m'arrive, le témoignage à la télé, à la radio, hop, ça dure 5 minutes, le psy n'a pas eu le temps finalement de faire une analyse, un petit peu fouiller la situation, puis là, pouf, par analogie avec d'autres situations, il y a une espèce de situation clé en main, c'est un peu magique. Et c'est vrai que la question de la pensée magique, c'est un peu un des écueils de cette pensée psy médiatique, c'est qu'elle peut laisser croire que c'est facile, que ça va vite. De la même manière que les émissions compressent des mois parfois de thérapie en l'espace de quelques minutes, ça donne l'impression que les choses cheminent extrêmement rapidement, que ça se fait très vite, que ça se fait parfois même sans douleur. Bon, le travail psy, c'est quand même pas ça, quoi. Il faut quand même en avoir conscience. Donc la question, c'est que le psychologue est perçu dans cette émission comme celui qui a la parole juste, la parole vraie, Donc, il faut savoir aussi parfois une expertise, c'est-à-dire on va demander à des psys même d'interpréter des comportements, même de gens qui ne voient pas, quoi. Telle star, telle politique, tel truc, il y a une espèce d'interprétation un peu toute faite. Parfois, c'est des lieux communs, on se rend compte qu'ils disent des choses qui sont quand même assez banales, finalement, et que s'ils n'avaient pas le label psy et quelque chose, bon, on aurait l'impression d'être un peu au PMU du coin, quoi. Mais bon. La question qui va se poser, c'est que quel est également pour les psys, alors parce qu'il y a la question de la lumière. Ça, j'évoquais le cas de Charcot tout à l'heure. On pourrait même parler de Freud, hein, qui avait également son ego et qui se voyait comme quelqu'un qui allait révolutionner la pensée. Et même s'il l'a fait d'une certaine manière, ça n'empêche pas de qu'il y croyait dur comme fer, bien avant que ça n'arrive. Il y a quelque chose d'un écueil finalement pour c'est que le psy, bon, il y a le psy caution, le psy de service, comme je dis, puis il y a aussi les psy vedettes, finalement il y en a un certain nombre. Gérard Miller, c'est plutôt un humoriste qu'un psy, à la limite, hein, il est pas
on est enregistré,
c'est pas grave, je le dis quand même. Non, mais je veux dire, il est rarement sur les plateaux pour en tant que psy, il est un peu là plus pour amuser la galerie, finalement. Je pensais plutôt à Boris Cyrulnik, à Stéphane Clerget, Christophe André, des gens comme ça, Marcel Ruffaut, voilà, qui était évoqué tout à l'heure. Donc typiquement, on est dans des gens finalement qui ont un peu gagné leur lettre de noblesse et qui peuvent s'exprimer en leur propre nom et pas être seulement donc là les petits sont finalement presque des auteurs, ils sont des auteurs avec succès, ils sont là, ils sont invités, font la une des journaux, parfois le 20h même. Mais ça a quand même des effets, ça, c'est que quand il y a eu des témoignages comme ça, même de leur part, disant que ça leur amène des gens qui sont attirés par la lumière, qui sont attirés par la gloire, qui à la limite se croient interpellés parce qu'ils les ont entendus dire des choses à la télé, à la radio, ont l'impression que ça s'adresse directement à eux, donc eux ils sont souvent obligés de se rendre compte que cette position médiatique, cette position de sujet supposé savoir, comme on dit dans le jargon, cette position-là les amène finalement à revoir, s'ils ont une éthique, leur position de professionnel. C'est-à-dire, c'est là que Françoise Dolto, à son époque, avait renoncé à sa pratique libérale pour se consacrer à la radio. Marcel Ruffaut a fait la même chose. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne... ils ont toujours une pratique publique, dans le service public, mais ils sont je veux dire, ils se rendent compte que c'est un effet de publicité, finalement. Il faut qu'ils remettent les choses dans leur contexte. Mais c'est vrai que ça a aussi un effet pour les patients. C'est-à-dire, quand on entend son propre psy parler à la radio, ça a quand même un certain effet, parce que il y a déjà la question, c'est qu'il y a une relation entre un patient et un psy, c'est quand même une relation privilégiée, c'est une relation particulière, et puis si on entend tout d'un coup dans les médias, on a l'impression qu'on en perd l'exclusivité, c'est quelque chose qui peut être assez douloureux. Quand il y a des questions de débat d'opinion, ça peut aussi avoir des effets, hein. Imaginez quelqu'un qui serait homosexuel, par exemple, et puis il entend son psy afficher un désaccord sur la place publique, sur la question du mariage, de l'adoption, quelque chose comme ça. Donc ça peut, je pense, amener une certaine rupture au niveau d'un lien de confiance. C'est des choses qui existent aussi. Il y a la question des indisponibilités, hein, parce que ces gens-là, ils ont quand même des emplois du sang de ministre, entre les colloques, les émissions enregistrées, les trucs, des vacances qui... Et donc là, on peut citer sur la question de l'éthique une citation de Jacques Lacan, même si au niveau de l'éthique, parfois il y a à dire le concernant, mais il a dit « le bruit ne convient pas aux psychanalystes ». Et je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est que la question de la lumière, la question de chercher j'allais dire, le feu des projecteurs, c'est quelque chose qui... Oui, mais voilà, ça pose également la question de notre propre exhibitionnisme à nous, parce que finalement, ce qu'on fait, on le fait à notre petite échelle, mais on le fait également. Voilà, ça nous a quand même posé également la question, qu'est-ce qu'on fait là, de quoi on vient parler, quelle est notre place, voilà, même si bon, on touche pas des millions de personnes en faisant ça, mais c'est que ça touche quand même quelque chose, et de quoi est-ce qu'on veut parler, de quoi il est question, voilà. Je vais passer la parole à Jean-Baptiste Tian maintenant, ouais, pour vous laisser un peu le temps de parler avec nous tout à l'heure.
Pour faire le lien, moi je ne vais pas développer forcément tout ce que j'avais prévu, faire le lien avec ce qu'Antoine vient d'évoquer, on s'est beaucoup effectivement interrogé, je crois la première fois, peut-être beaucoup plus que par la suite, sur qu'est-ce qu'on pouvait bien venir faire à l'université populaire, hein. Et c'est pas anodin, cette réflexion-là, on est dans une salle de théâtre ce soir, ça induit quelque chose sur notre pratique, dans le sens où on est amené à transmettre quelque chose. Or, on n'est pas des pédagogues, nous ne sommes pas enseignants, on est des praticiens, et en tant que praticiens, on traduit quelque chose aussi, on tente de traduire quelque chose, de vous transmettre quelque chose de notre pratique, attendu que cette pratique-là, elle est aussi soumise à une confidentialité qui est de rigueur, et ce qui peut parfois poser souci, et c'est pour ça que des fois c'est plus facile de parler dans l'espace du débat quand on sait qu'il n'est pas sur la bande. Voilà. Alors pour reprendre peut-être rapidement deux, trois points de ce que je souhaitais vous évoquer ce soir, c'était de penser dans la continuité des réflexions sur les mass médias, la question de cette représentation toute puissante des psys, en quelques points. L'idée, elle correspond à ce que quelqu'un pourrait tout nous apporter. Tout nous apporter, c'est-à-dire qu'une solution pourrait venir d'une seule et unique personne. Et c'est un petit peu le mythe que tentent d'incarner certaines personnes comme ça sur la scène. Et ça vient rencontrer le fantasme chez tout un chacun qu'ils auront la solution qui me convient. Et dans cette formulation-là, qu'un autre puisse avoir la solution qui nous convienne, on voit bien la dialectique qui peut s'opérer entre soi et l'autre, et qui est à interroger avec rigueur, dans le sens où si ces émissions de télé-réalité traduisent quelque chose d'un processus de l'identification, c'est-à-dire qu'effectivement on va s'identifier au vécu de l'autre, on va retrouver des parts de soi à l'intérieur de ça, pour autant, ça ne résout rien et ça ne met en rien au travail sa propre problématique interne, et ça ne permet guère plus que simplement une identification. S'il suffisait de s'exposer à un trouble ou une maladie pour s'en voir guéri, on le saurait, c'est le principe des vaccins, mais sensiblement, sur le fait psychique, ça marche un peu moins bien. Hein. Voilà, donc je crois que c'est important de resituer cet effet-là, attendu que globalement, pour peut-être essayer de métapsychologiser un petit peu tout ça, ça renvoie à une forme de reste de croyance infantile, hein, d'une pensée magique. Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de la pensée magique, c'est Sophie de Morgenstern qui a développé ça dans un article que vous pouvez trouver dans la Revue Française de Psychanalyse, c'est un vieil article des années 30, sur la pensée magique. Ça se trouve sur Gallica maintenant, parce qu'avec Internet on a accès à tout, alors vous trouvez la Revue Française de Psychanalyse sur la Bibliothèque Nationale de France. Il y a des choses à découvrir à l'endroit de cette pensée magique. Sans doute que si on a en nous ces restes de pensée magique, c'est dans sans doute un seul et unique but, qui serait d'essayer de se préserver, de se protéger de la souffrance humaine. La souffrance, j'avais retrouvé une petite phrase de Freud en essayant de préparer ça, parce qu'on cite souvent Freud, mais j'essaie de vous en citer d'autres, où il disait globalement, rendre la vie supportable, c'est le premier devoir du vivant. Il dit ça dans Totem et Tabou. Rendre la vie supportable, c'est le premier devoir du vivant. Et il ajoute, voilà, je retrouve la phrase, l'illusion perd toute sa valeur lorsqu'elle est en opposition avec ce devoir. Et voilà. En 1915, il écrit ça. L'idée que la vie mérite d'être vécue à partir du moment où elle est rendue supportable, suffisamment supportable, good enough, aurait dit peut-être Winnicott. L'idée, nous, dans nos dispositifs de soins, sans aller trop loin sur la question de qu'est-ce que ça induit dans nos pratiques, parce que bon, à part déjà que c'est un endroit, un dispositif éminemment narcissique, on va éviter de trop parler de nous, mais l'idée, c'est plutôt de se dire que nous, dans notre position praticienne, il s'agit avant tout de pouvoir essayer de penser quel est le minimum à faire pour l'autre, plutôt que quel est le maximum jusqu'où on peut aller. Il y a Winnicott, Donald Winnicott, dont j'ai eu parler ici déjà quelques fois, qui a pu amener cette réflexion pour différencier la psychanalyse de la psychothérapie. En disant en psychanalyse, on se pose la question du maximum. Quel maximum qu'on peut faire? On essaie d'aller vraiment en profondeur. En psychothérapie, l'idée c'est plutôt de quel est le minimum, supportable que l'on puisse effectuer pour rendre la vie de l'autre un tant soit peu allégée de ses souffrances. Ces souffrances, Freud, du coup, dans Malaise dans la civilisation, il nous apporte l'idée que ces souffrances sont issues de trois ordres. Un premier, qui est lié à la nature, la citation, sinon vous irez voir Freud, mais du coup, il y a l'idée de la puissance de la nature. Il dit la caducité de notre corps. Et du coup, il y a la déficience des dispositifs qui règlent les relations des hommes entre eux dans la famille et dans l'État et la société. Et du coup, il dit, la nature, on ne peut rien y faire, on y est soumis. Malgré tout, on n'arrive pas à contrôler la nature dans ce qu'elle produit, que ce soit d'un point de vue, climatologique, réel. Voilà, on voit bien quand il y a une tempête qui détruit des maisons entières, on n'a rien inventé pour réussir à résister à ça, à la nature, et heureusement, jusqu'à un certain point. Donc on n'arrive pas à faire face à la nature, on peut pas la maîtriser. La maîtrise est une notion importante par rapport à ça. Maîtrise de l'environnement. Maîtriser l'environnement, ça pourrait vouloir signifier maîtriser l'autre aussi, si on le prend dans une dialectique intersubjective. La caducité de notre corps, elle est celle que notre corps, ma foi, il est relativement lié à la question du naturel, et de la nature aussi. Et que si les médecins somaticiens consacrent leur vie à essayer de maîtriser, on va dire, les aléas du corps, pour essayer de dompter les effets de la maladie, pour autant, le corps reste quelque chose d'assez, encore inconnu, malgré tout, certains aspects, et immaîtrisable. On ne peut pas empêcher une maladie de se produire. Quelques maladies qu'on a réussi à endiguer grâce au vaccin, mais on ne peut pas vacciner contre la vie psychique, c'est un peu plus compliqué. Et la psychanalyse ne vaccine pas de la vie psychique. On pourrait passer 10 ans en analyse, heureusement, on ne serait pas vacciné la question de l'inconscient. Et ça, c'est important, je crois, à souligner. Je le dis comme ça, comme une boutade, mais on pourra en débattre. Et puis, cette dernière voie, qui est la voie de la souffrance sociale. Et Freud nous dit, celle-là, nous ne voulons absolument pas l'admettre. Nous ne pouvons discerner pourquoi les dispositifs créés par nous-mêmes ne devraient pas être bien plutôt une protection et un bienfait pour nous. Il y a vraiment l'idée que ce qui viendrait de la souffrance institutionnelle, et là on se rapproche du fait politique aussi, par les liens qu'il peut y avoir avec la société, comment les institutions que nous avons créées, parce qu'on n'a pas créé notre propre corps, on n'a pas créé la nature, mais on a créé ces institutions que sont l'État, la société, la civilisation, et à plus petite échelle, l'enfantement suffit à créer une famille, par exemple, enfin, le mariage aussi. Mais la famille est, Lacan l'avait cité dans un article, je crois que c'est 36, si je n'ai pas de bêtises, en disant que c'est la première institution, c'est une institution. Il part de ce constat-là pour aller développer sa position, certes éminemment pessimiste, sur un postulat du côté de la pulsion de vie et la pulsion de mort. Postulat qui continue de faire débat, au sein des différents corps psychanalytiques. voulais vous proposer, alors je ne vais pas aller trop loin parce que je veux quand même essayer de laisser un espace au débat. Il y avait l'idée globalement, en deux, trois traits, de se dire que s'être, le risque de soutenir une position infantile qui serait du côté d'une croyance que l'autre peut tout nous apporter, est quelque chose d'éminemment pernicieux. Et je pense qu'il est important de bien prendre garde, à être vigilant à ces traits-là, pour tout un chacun, que ce soit qu'on entend un psy sur un plateau, quand on lit un ouvrage ou qu'on va consulter quelqu'un. Parce que personne ne détient une vérité pour l'autre. Et ça, je crois que c'est important. Et aussi, quand nous, on peut avoir l'occasion, comme ça, de prendre la parole publiquement ou d'écrire et de publier, ce sont des questions qu'on se pose. C'est-à-dire qu'aucunement, il s'agirait d'avoir une réponse pour l'autre. La réponse vient bien de l'individu. Et je pense que toute pensée ou tout dispositif ou toute idéologie qui prétendrait avoir une réponse à tous les maux, elle est qu'illusion. Et Freud va le déployer dans ses écrits sur le socius et le collectif avec l'idée que ça correspond plus à ce qu'est la religion que ce qu'est la pensée dite scientifique. C'est-à-dire que la religion propose un modèle qui serait valable pour tous, quelles que soient les différences individuelles ou subjectives. Ce sont des écueils qu'on a pu traverser dans l'histoire récente par une espèce d'illusion du côté de la question de la prévention. J'avais quelques points de repérage, mais peut-être on en reparlera après. Des points de repérage du côté de voies de dégagement par rapport aux écueils que ça peut poser. D'une part, l'idée que dans le travail psychique, il s'agit toujours d'un travail à plusieurs, au moins à deux si on est dans une relation comme ça interindividuelle, mais que bien souvent, pour ce qui est notre cas, on travaille aussi en institution, on travaille certainement pas seul. On travaille avec des collègues psychiatres, avec des assistantes sociales, avec des éducateurs, et enfin voilà, je ne vais pas citer la kyrielle de collègues avec lesquels on travaille, mais qui, c'est vraiment dans cette articulation du travail à plusieurs que chaque praticien peut être amené à essayer de prendre soin, de traiter les différentes parties du moi de l'individu, et que personne en sens ne détient une forme unique de vérité ou de capacité à pouvoir dire sur, le destin de la vie psychique de l'autre. Ça, c'est un premier point. Aussi, un second point qui serait du côté du rapport à la temporalité et à la causalité. Ça a dû être un écueil, on l'a vu il y a quelques années dans un rapport INSERM sur les préventions, où avait été défendue l'idée que on pouvait déceler très précocement des 3 mois, je me souviens plus.
3 ans,
oui, pardon. Des 3 ans, les conduites agressives, potentiellement violentes, chez les enfants. Donc on proposait de déceler ces conduites d'agressivité, de les diagnostiquer, de les repérer. C'est l'INSERM. Alors l'INSERM, il ne rencontre pas des patients, il rencontre des articles, et puis ils étudient des articles qui ont été publiés, c'est tout. Mais ils ne rencontrent pas les patients. Et donc à partir de ça, il s'est dit, mais tiens, on arrive à déceler déjà les premiers mouvements d'agressivité chez des petits-enfants. Et si on arrive à déceler ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec la tendance antisociale, avec la délinquance, avec l'agressivité ou la psychopathie à l'âge adulte? Et la proposition avait été faite, c'était sous le gouvernement Sarkozy, mais je ne fais aucun lien, c'était juste pour dater les choses. Et la proposition avait été faite de pouvoir servir comme ça, classifier les conduites, et d'essayer de voir effectivement si on pouvait voir si ça avait une vertu pronostique. Heureusement, il n'y a pas eu d'étude longitudinale qui a été effectuée en ce sens, parce que ça fait un tollé chez les spécialistes, avec un mouvement qui avait été nommé « pas zéro de conduite » pour... et qui a quand même fait débat, mais je crois que c'est important de maintenir une réflexion par rapport à ça. En préparant l'intervention de ce soir, on pensait aussi à ce film Minority Report avec Tom Cruise, merci, où effectivement il y a une dimension d'anticipation de la temporalité, et on finit par prédire l'avenir de l'individu, qu'est-ce que va faire un individu. qu'il soit malade ou sain, il faut bien s'en garder. Si ce n'est qu'on voit à quel point dans notre société actuelle, parfois même les psychiatres peuvent être mis en difficulté, parce que récemment il y a une psychiatre dans le sud qui était jugée là pour les agir d'un individu souffrant de schizophrénie. On s'aperçoit que c'est pas si simple. Ça veut dire qu'il y a, du point de vue médico-légal, voilà, on cherche à trouver un responsable systématiquement. Le problème, c'est qu'on pourrait viser à une société qui soit aseptisée, où finalement, pour chaque dérapage, il faudrait qu'il y ait un responsable. C'est assez simple d'aller du côté d'une implication des institutions soignantes ou des professionnels de soins. Pour autant, je crois que tout professionnel qui prétendrait prédire ce que va faire un individu, il serait plus du côté des gourous ou de l'emprise sectaire, ou de la pensée magique, si on peut faire après du... Il y a toutes les pensées animiques comme ça, du côté du chamanisme, des sorciers, de la voyance, ces choses-là. Ça renvoie à la question de l'analyse profane, des interprétations sauvages et du charlatanisme. Freud avait proposé de très tôt réfléchir là-dessus. Récemment, il y a eu des décrets de loi aussi qui ont été passés pour essayer de préserver ça par rapport à l'usage du titre de psychothérapeute. Je voulais finir peut-être sur ces possibilités de voie de dégagement qui sont, je pense, du côté du travail à plusieurs. Et du côté d'une réflexion autour de la question du complexe de castration qui a été proposé par André Green. Après l'idée de l'angoisse de castration, il propose de le théoriser du côté d'un complexe et qui renvoie à la question du renoncement pulsionnel. C'est-à-dire que pour vivre ensemble, il s'agit de supporter un minimum le renoncement du déploiement de nos pulsions comme ça, libre et spontané. Voilà. Ça suppose un travail de sublimation, de transformation, de déplacement, et que ce travail-là permet le vivre ensemble. Ce travail-là, il n'est pas anodin, et il peut être fait que à l'intérieur de chaque individu. Il ne peut pas être une prescription qui viendrait de l'extérieur, comme un médecin pourrait prescrire une molécule chimique pour essayer de sédater, de tasser l'émergence de la souffrance en soi. On voit bien comment les termes d'anxiolytique ou d'antidépresseur, on parle même maintenant d'antipsychotique, c'est formidable, ce serait pour éradiquer les psychotiques, non ? Ou la psychose, on ne sait pas, mais du coup, il y a quelque chose d'assez fou, même dans la terminologie comme ça, pharmacologique, qui elle va bon craint, et qui donne l'illusion qu'une molécule pourrait modifier radicalement la souffrance psychique. Alors oui, ça aide, on va pas se le cacher. Ça doit aider à retrouver un état de stabilité minimum pour pouvoir par la suite transformer les choses à l'intérieur de soi. Mais ça ne transforme pas les choses en soi. Finir, parce que je ne vais pas faire la même chose que c'est clair. Je vais essayer.
Donc un problème avec son complexe de castration,
c'est ça ? C'est ça. C'est enregistré, c'est bien. En venant dans le métro, je disais un article de Winnicott sur le sens du mot sur le sens du terme de démocratie, un article de 1950 que je vous invite à lire. C'est dans un petit bouquin qui est assez sympa, qui s'appelle Conversation ordinaire. En plus, ça vaut pas cher, c'est en folio, donc j'ai bien marre. Et du coup, sur le sens du mot démocratie, il ouvre une réflexion sur l'idée alors il dit, c'est pas trop mon domaine, pourquoi un psychanalyste pourrait commencer à parler d'un fait social ou autre, j'y connais rien, le risque c'est que je me plante, mais il tente. Et il ouvre une réflexion en disant que la démocratie serait peut-être une des formes abouties d'une société suffisamment mature. Et il propose de penser l'idée d'une société mature par rapport au processus de développement individuel, en imaginant que, effectivement, dans le processus individuel, il reprend ces notions-là, que dans le processus de développement individuel, on part d'une forme d'immaturité pour gagner vers une forme de maturité. Or, on sait très bien que cette maturité, elle ne peut s'acquérir que depuis l'intérieur de soi, grâce aux étayages et aux rencontres avec des objets extérieurs qui nous aident à devenir matures, mais pour autant, elle ne peut pas être une prescription depuis l'extérieur. Quand on dit à un enfant « sois sage », c'est une espèce d'injection de surmoi, comme ça, il peut s'y soumettre, mais la vie n'est sûrement pas de se soumettre à quelque chose qui vient d'extérieur, elle est bien de réussir à intégrer quel intérêt ça peut avoir finalement d'être sage ou de ne pas l'être. Je crois que c'est important aussi, et des fois de réussir à dépasser le cadre qui nous est donné. Tout ça pour dire que Winnicott a postulé dans nombre de ses écrits sur la créativité, et je finirai là-dessus pour vous, laisser la parole aussi puis ouvrir au débat, sur l'idée que finalement une société suffisamment démocratique ou suffisamment mature est une société dans laquelle on doit pouvoir vivre créativement, et je crois que cette créativité-là, elle est justement l'opposé du dogme, elle est l'opposé de la soumission à un environnement, elle est l'opposé à une espèce de vademécum qui nous dirait comment il faut vivre, une forme de normopathie, comme ça. Vivre créativement, c'est prendre le risque aussi de supporter la souffrance en soi et de réussir à la transformer sans forcément se voir imposer depuis l'extérieur une solution qui serait semblable pour tous. Voilà. Je vous remercie. On s'arrête là et on lance le débat, non ?